Certains trouveront peut-être cette comparaison disproportionnée, car ils mesurent encore mal l'ampleur des transformations que les succès du féminisme produiront dans l'avenir sur le monde où nous vivons.
C'est souvent en homme que je me voyais.
D'elles, on dit qu'elles sont comme des hommes.
La politique n'est plus qu'une affaire de mots.
Si je retrouve mon corps.
Si je retrouve mon corps.
Si je retrouve mon corps.
Et si je retrouve le corps.
Je retrouve mon corps, ou les corps, en fait, de femmes. Et...
Si je retrouve mon corps.
Qu'est-ce que je vais découvrir?
Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Hein, un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein, un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard! Connard!
Salut, salut.
Salut à tous.
C'est samedi matin, il est 9h et aujourd'hui, à l'émission Si je retrouve mon corps, on va vous parler des pétages de plomb, des meufs qui pètent les plombs.
Ouais, je pense qu'on a trouvé la plus belle illustration de ça que vous venez d'entendre. C'était Caroline dans Nos jours heureux. Et voilà, c'est l'explosion, le pétage de câble, la colère, l'hystérie qui vont dresser un peu notre heure d'émission.
On va essayer d'explorer un peu différentes formes d'expression de ça, comment ça peut être reçu par les gens qui sont face à des meufs qui pètent les plombs, comment ça a pu se montrer dans certains films, etc.
Ouais, si on avait envie de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que ça nous semblait être une figure un peu importante de comment on se représente les femmes. On avait envie de parler de la colère féminine, de la violence féminine, de la figure hystérique, en se disant que là, il y avait quelque chose à creuser aussi dans ce qui constitue les émotions très peu interrogées politiquement et qui ont un lien aussi avec les femmes.
Oui, et... Les quelques extraits qu'on a trouvés, une partie, ça, finalement, c'est beaucoup des meufs dans des situations un peu domestiques ou qui sont dans le rôle de soit de mère, de femme et qui dans ce rôle-là pètent un plomb. Et je pense que c'est pas anodin, c'est sûrement des zones où il y a des choses sur lesquelles péter des plombs aussi encore aujourd'hui. Et je pense que Ouais, ça fait un truc.
C'est sûr que si on pense un peu rapidement à ce qu'on s'imagine, quand on imagine une femme qui pète un câble, nous en tout cas on avait beaucoup d'images de femmes dans des situations, effectivement on pourrait dire domestiques, même si c'est un mot un peu bizarre, mais des femmes qui pètent un câble sur leur mari, sur leurs enfants, qui pètent un câble parce qu'elles en peuvent plus en fait du travail quotidien qu'elles font, des choses comme ça. Et effectivement plutôt toutes ces situations-là, elles étaient liées à... une situation un peu latente qu'on sentait monter et qui mène à une sorte d'explosion un peu spectaculaire de quelqu'un qui pète un câble, quoi.
Ouais, c'est je crois que c'est ça qui est assez parlant, que c'est un peu le moment limite où ce qui a été supportable pendant des jours, des mois, des années, d'un coup atteint un seuil qui fait que c'est plus supportable et du coup qu'il y a une force qui fait face et qui s'exprime. Et je crois que c'est peut-être ça qui est intéressant là-dedans, de se dire comment à un moment il y a quelque chose qui réagit en face et qui n'a jamais réagi jusque-là. Et c'était un peu ça qu'on a envie de montrer, quoi.
It's the most wonderful time. Noël est une période magique où se mêlent l'émerveillement, l'excitation et la joie. On y passe des instants mémorables avec sa famille et ses amis. Mais savez-vous ce qui fait de Noël une fête si particulière? Les mamans. Les mamans qui se cassent le cul à cuisiner, empaqueter, décorer et à tout acheter.
On est en train de se tuer à essayer d'être parfaite et ça nous fait devenir dingue.
Voilà, par exemple, les mamans qui pètent un câble parce qu'elles en peuvent plus d'être bah, de se casser le cul pour être en parfaite quoi, sur toutes les situations. Et par exemple, à Noël, c'était un extrait de Bad Moms qu'on venait d'entendre. Et ça illustre assez bien ce qu'on disait, on en a quelques autres, ces situations qui montent doucement, ces situations qui se répètent un milliard de fois, et c'est un peu ça aussi qui fait la caractéristique, moi je dirais, du travail domestique par exemple, c'est la répétition quotidienne d'un travail assez méprisé, et qui fait que ça ouvre assez la place... à quelque chose qui monte, quoi, à une colère un peu sourde, à un agacement. Enfin, un agacement, mm-hmm. Le mot agacement, il est un peu trop faible, mais en tout cas, une rage contre ce mépris et contre le fait de refaire quotidiennement les choses, quoi, moi, je dirais.
Ouais. Et en repensant un peu à cette expression de pétage de plomb, finalement, je me disais, ah, ben, ça, probablement que ça doit venir un peu de l'analogie avec un système électrique. Voilà, il y a les plombs, les fusibles qui font qu'à un moment, si jamais ton système est... Enfin, plutôt que de niquer le système, en fait, t'as un petit fusible qui va sauter si jamais il y a une surcharge ou je sais pas quoi. Et que ce sera juste ce petit truc-là qui sera remplacé plutôt que l'intégralité du système électrique à repenser. Et je trouvais ça intéressant de... Comment ça fait aussi voir ces formes d'expression de rage hyper forte comme aussi des choses peut-être indispensables au vu de parfois notre incapacité à juste s'adapter au quotidien pour pouvoir sortir quelque chose qui n'arrive pas à sortir, quoi. Et peut-être se dire qu'il y a de la place pour ça comme une forme d'expression, quoi, même si on gagnerait sûrement à exprimer en amont les problèmes aussi, quoi. Mais
du coup, si on cherche des choses, comme on vient de le faire nous sur les femmes et la colère, par exemple, c'est assez déroutant ce qu'on trouve. Déjà, on trouve pas grand-chose. Quand on cherche les femmes et la colère, on tombe sur à peu près un milliard d'articles sur les femmes de gendarmes en colère. Alors ça, c'est nous que ça met en colère de tomber sur des trucs pareils. Déjà, le fait que la première occurrence du mot femme, ça puisse être les femmes des hommes, mm-hmm. c'est agaçant. En plus, quand c'est les gendarmes, c'était un peu irritant. Non, mais on trouve pas grand-chose sur les femmes et la colère. Mais on trouve deux faits séparément qui sont moi je trouve intéressants, même si ça reste des analyses un peu psychologiques et sociologiques. Il y a une étude qui dit que les femmes se mettent plus en colère que les hommes, par exemple, mm-hmm. ce qui est plutôt contre-intuitif par rapport à ce qu'on s'imagine.
Ouais, ouais.
Et la deuxième chose, c'est que la colère est plutôt moins bien reçue chez une femme que chez un homme. Parce qu'il y a une petite étude que j'avais lue et que je trouvais rigolote, que je trouvais assez parlante, qui mettait des gens face à toute une série de candidats à un poste. Il y a toute une série de personnes qui passaient, qui étaient des faux candidats, quoi, qui mimaient certaines émotions, et les gens devaient dire s'ils les prenaient ou pas au poste, quoi. Et à même expression de colère, on voyait qu'un homme était pris et qu'une femme n'était pas prise parce qu'elle s'était mise en colère et que du coup ça la dévalorisait, quoi. C'était plutôt quelque chose de dévalorisant pour elle. Et la deuxième phase de l'expérience, c'était que si elle expliquait pourquoi elle s'était mise en colère, alors là elle regagnait des points dans l'esprit des gens qui la notaient.
Et si le mec expliquait ?
Et ben là par contre il perdait des points, quoi.
Ah ouais, ouais, ouais.
Du coup, il y avait quelque chose de l'irrationalité, ouais, de la colère féminine qui explose et qui la dévalorise, la fait passer plutôt pour quelqu'un d'anormal, quoi. C'est pas entendu chez elle, alors que chez un homme, c'est plutôt une marque d'autorité, que quelqu'un se laisse pas faire, quoi.
Mm-hmm.
Et du coup, le fait d'avoir tout ce qu'on vient de dire juste avant sur le travail domestique qui est encore le quotidien de plein de femmes. Et le fait que la colère est plutôt quelque chose qu'on n'apprend pas aux femmes et quelque chose qui est plutôt dévalorisé chez elles, peut-être c'est ces deux facteurs-là aussi qui mènent à cette espèce de figure assez classique aujourd'hui de cette femme qui explose, quoi.
Mais qui sort d'elle-même aussi, je pense, ouais. Qui a à la fois quelque chose de d'exceptionnel au sens de marginal là-dedans, mais qui ça en est devenu une espèce de figure un peu mythique, quoi. Mais ouais, moi ça me fait penser à moi quand j'étais petite, je restais très discrète. On m'avait appris tout le temps à garder cette espèce de discrétion, Et je laissais très peu de place à la colère. J'étais pas une personne colérique. Et très tôt, j'ai commencé à faire des rêves la nuit, à rêver que j'engueulais de tous les noms les personnes de mon entourage, et plus spécifiquement ma mère, quoi. J'avais tout un tas de rêves où je prenais la tête à ma mère, et j'avais de très bonnes raisons de le faire, alors que dans la vie quotidienne, c'était quelque chose qui se présentait jamais. Après, je ressentais même pas le besoin de ça. Et ça m'a toujours semblé comme si c'était peut-être finalement une espèce de besoin que, en tout cas, moi, je gardais en moi, mais que j'arrivais pas à explorer cette forme-là, puisqu'on ne l'avait pas vraiment apprise, quoi. Et des fois, je me dis, je crois que quand même, il y a besoin de ça, parce que ça reste une forme de sortie de quelque chose que, je sais pas, peut-être comme le sport, le sexe, plein de choses, j'en sais rien, qui permet de sortir ce que t'as au fond et que t'arrives pas forcément à exprimer par d'autres biais, quoi.
Mais je trouve qu'il y a quelque chose de caractéristique de ça, c'est que moi dans ma famille, et c'était le cas chez beaucoup d'autres amis à moi, on n'avait pas peur de ma mère, on avait peur de mon père, quoi. C'est-à-dire que ma mère, quand elle était en colère et qu'elle explosait, oui, c'était un mauvais moment à passer, mais c'était toujours aussi un peu ridicule, un peu, bon, voilà, des crises. Alors que mon père, quand il se met en colère, c'est l'espèce de colère froide, du patriarche. Bon, je dépeins une figure un peu horrible de ma famille, papa, maman, si vous avez... je caricature un peu pour faire comprendre un message. Mais oui, les pères, quand ils se mettent en colère, il y a cette espèce de colère froide et qui fait autorité, quoi. Parce qu'elle est froide et raisonnée et qu'on sent que derrière, elle va sévir, quoi.
Et qui va de pair avec leur rôle et ce qu'ils incarnent en général, j'imagine, quoi.
Ouais.
Et peut-être il y a un truc où avec la mère ou la meuf, ça tranche davantage avec l'état d'être ce qu'on peut attendre d'elle, son identité. Et du coup, on arrive assez vite à le mettre à distance comme quelque chose d'un peu... Elle est un peu sortie de ses gonds, c'est un peu bizarre, et on met assez vite ça de côté, quoi.
Ouais, tout à fait. En tout cas, on se disait, en écoutant tous ces extraits, que plutôt ça donnait lieu à quelque chose d'assez comique. Par exemple, au cinéma, les femmes qui pètent un câble, c'est plutôt un ressort comique des situations, quoi. Comme on vient de l'entendre juste avant, que c'était Caroline dans Nos Jours Heureux qui pète un câble, et elle, c'est typiquement ça. On voit pendant tout le long du film, elle décroche pas un mot, elle arrive pas à parler, elle est très très timide et pas très à l'aise dans les situations, et puis d'un coup on entend l'explosion qu'on vient d'entendre avant, et puis ça va pas se terminer, quoi. Dans le film, il y aura à chaque fois une nouvelle scène, et du coup voilà, c'est un des ressorts, moi j'ai l'impression, assez comique. Qui tout d'un coup met en œuvre cette explosion.
Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'était la dernière fois que je faisais la cuisine pour toi et ton père. À partir de maintenant, ici, c'est chacun pour soi.
Attends, c'est quoi ça? C'est la guerre?
Total, oui.
C'est moi, Gisa.
Qu'est-ce que tu fais là?
J'ai amené toutes mes affaires. J'en ai marre de ne pas dormir avec toi tous les jours, je m'installe.
Non mais dis donc, tu te crois où là?
Comment ça, où je me crois?
Ben oui, tu viens m'emmerder chez moi à 3h du matin.
Ah bon? Je viens te demander en mariage et toi t'appelles ça venir t'emmerder?
Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seul, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquille, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux...
Mais tout ça tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le problème.
Le problème c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise tiens toi qui repasse si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où t'auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie.
Ouais, c'est marrant. En écoutant cet extrait, je me disais, ouais, mais un peu comme l'extrait d'avant. Donc, il y avait un extrait du film Chaos avec Catherine Fro qui, à un moment... vit une histoire de couple et enfin juste pète les plombs un peu là-dedans pour diverses raisons. qui est un plutôt chouette film. Et ensuite, ouais, je connais pas le film suivant, mais en
c'est
tout
un
cas...
extrait de La Crise de Colin Serrault.
Ah ouais, ouais, ok. Je me disais que, bah, ben, d'ailleurs, deux films de Colin Serrault, mais que dans les différentes situations de pétage de plomb, c'est un peu des listes, quoi, des énumérations de toutes les raisons pour lesquelles, là, d'un coup, ça sort, et que je trouve que, à la fois, il y a c'est un moment, comme tu dis, quoi, c'est un ressort comique, mais il y a aussi cette espèce de liste qui fait sens, en fait, quoi, que c'est une espèce d'accumulation de choses du quotidien qui, à un moment, ben là, il y a ça qui a été tu pendant des années de vie conjugale, et du coup, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais ça non plus, ça va pas. Et je trouve que le ressort comique, il vient aussi là, mais ça donne aussi quand même quelque chose qui reste entendable, que, en fait, ces choses-là, elles font quand même écho à plein de meufs, et pas que, que ça peut être aussi quand même une raison pour un peu péter les plombs, même si on met toujours à distance.
Je pense que c'est assez caractéristique aussi du fait que chacune de ces choses, séparément, ne serait pas assez lourde pour être en colère, pour péter un câble, quoi.
Ouais, ouais.
Typiquement, chaque tâche domestique prise séparément, bon ben voilà, on comprendrait pas pourquoi tout d'un coup quelqu'un gueule parce qu'elle a fait la vaisselle et puis que les autres l'ont pas fait, quoi.
Ouais, ouais.
Et puis d'ailleurs, on se le dit à soi-même, quoi, en général, quoi, quand on est énervé du fait de faire quelque chose et que les autres sont pas en train de nous aider. On se dit toujours dans le moment un peu à nous, enfin toujours, en tout cas j'ai l'impression que c'est assez assez commun de se dire non mais c'est rien, quoi, enfin c'est bon, moi aussi mais déjà arrivé de ne pas aider les autres à faire la vaisselle, enfin etc. Enfin chaque mini bout pris séparément, j'ai l'impression, se trouve toujours, on arrive toujours à se raisonner, quoi, à trouver une raison, à les trouver pas très significatifs, quoi.
Mais je pense que du coup j'y avais pas pensé, mais je me dis dans cette espèce de listing il y a quand même quelque chose de fort d'essayer à un moment de se dire de quand même prendre du recul avec la situation et de dire ben là je pète pas les plombs juste à cause de cette situation là qui est en train de se passer. Là en l'occurrence je crois que c'est son copain qui vient à 3h du mat et qui veut venir habiter avec elle, mais en fait voilà, c'est une succession et une accumulation de choses et que ouais, qui est un truc qui me parle dans comment on peut essayer d'avoir une colère et quand même de la transmettre et de poser des mots dessus. Ben en fait ouais, ça permet de dépeindre un peu sa situation et pourquoi il y a du sens à un moment à ce que ça explose, quoi.
En tout cas, c'est des situations qui nous semblent intéressantes parce qu'elles disent quelque chose d'une situation qu'on peut interroger politiquement. Tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, ça mériterait d'être interrogé politiquement en soi et de pas être...
La position des meufs, par exemple, dans un couple, ou le rôle qu'elles n'ont pas forcément choisi, dans lequel elles se retrouvent, ou le rôle de mère, ou etc. Ouais.
Et puis le fait que voilà, cette explosion, elle serve de soupape. Et comme on le sait, voilà, les soupapes, ça permet aussi à ce que le mécanisme continue de fonctionner comme avant. Et que du coup, il y aurait peut-être quelque chose aussi à creuser là-dedans.
Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends? Je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre.
Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes.
Je te dirai encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père.
Mais je rêve. Ma parole, je rêve.
Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas.
J'y peux rien, mais... Je suis... Ouais, c'est ça. Psychofrigide. C'est mental, c'est viscéral. Je suis comme ça, c'est pas marrant. Je suis comme ça, c'est pour longtemps, c'est pour toujours. Mais l'important, c'est que je me supporte. Et si un jour je me supporte plus, et ben je changerai. Et si je change pas, je partirai. Je laisserai Albert sur le carreau. Y'a pas de lézard, faut que je me barre. Y'a pas de lézard, faut que je me barre.
C'était Jeanne Chéral qui chantait son pétage de câble de meuf un peu, comment elle dit, psychotimide, névropathique, une chanson que j'aime bien.
Psychofrigide.
Psychofrigide aussi, ouais.
C'était la fin d'une longue chanson qui s'appelle « Mes problèmes de relations », c'est ça, ouais. Ou « Les problèmes de relations », je ne sais plus.
Ouais.
Alors, il y a une figure un peu féminine qu'on avait envie d'évoquer, c'était celle de l'hystérique. Aussi parce que c'est un des ressorts psychologiques, politiques, qui permet de ne pas s'interroger justement sur qu'est-ce qui est soulevé, qu'est-ce qui au fond est soulevé par ce qui explose là. Moi, ça me faisait assez vite penser, quand on a parlé de pétage de câble, à l'hystérie, à l'hystérique telle qu'en tout cas on la définit un peu aujourd'hui, parce que l'hystérie a une longue histoire qui est bercée un peu par différentes phases. Et j'ai l'impression que, par exemple, au tout début, les crises d'hystérie, ça ressemblait, enfin, c'était défini médicalement comme des choses beaucoup plus spectaculaires que ce qu'on qualifie un peu communément aujourd'hui d'hystérie, quoi. C'était beaucoup de femmes qui avaient, je sais pas, des crises de convulsions, qui se tortillaient un peu dans tous les sens, qui pouvaient hurler. Enfin, c'était quelque chose d'assez spectaculaire par rapport à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. De Caroline qui crie à la piscine. Et c'était quelque chose qui était lié historiquement et médicalement au corps des femmes. Pas toujours, on trouve un peu des exceptions de ça, mais les premières traces qu'on peut trouver de l'hystérie, son explication la plus classique, ce serait que ce serait lié à l'utérus. Mm-hmm. Qui dans l'Antiquité, peut-être au Moyen-Âge aussi, je sais pas, était mouvant. On estimait que l'utérus des femmes bougeait dans leur corps et que suivant l'endroit où il se trouvait, ça provoquait des humeurs différentes. Mm-hmm. Et que entre autres, voilà, parfois quand il bougeait trop, je sais pas exactement dans quelle position il se mettait, mais ça créait des crises d'hystérie. Et le mot hystérie, il vient du mot utérus, quoi.
Ouais.
Donc rien de très surprenant à ce qu'il ait suivi un peu comme ça dans l'histoire les femmes.
Quoi. Ouais.
Et alors bon, c'est un peu horrible cette histoire d'utérus mouvant, parce que du coup on estimait évidemment qu'une des seules choses qui pouvait calmer l'hystérie, c'était par exemple de tomber enceinte, parce que du coup là ça...
Il se remettait un peu en place, voilà. Quoi.
L'utérus se mettait en place et ne pouvait plus bouger. Du coup effectivement on voit bien le lien entre les
on
rôles.
On redevient une vraie femme, ouais, et... Voilà. Et ça y est, quoi. Ouais. Tout repart.
Après, il y a une autre manière de soigner l'hystérie qui était celle d'avoir un orgasme. Enfin, les médecins, j'ai trouvé ça dans plusieurs textes. Ça nous interroge un petit peu parce qu'on se demande c'était quoi. Enfin, on sait que l'orgasme féminin, ça n'a pas vraiment existé historiquement, en tout cas pour les médecins. Mm-hmm. Enfin, surtout pour les médecins. Mais... Et du coup, on se demande un peu voilà, comment c'est apparu ça. Ça serait bien d'aller creuser un peu plus derrière ça. Mm-hmm. Mais en tout cas, on a trouvé un certain nombre de récits qui disaient que les médecins faisaient avoir des orgasmes aux femmes pour soigner leur hystérie, quoi.
Ouais.
Du coup, voilà. Je sais pas si ça cachait des viols de médecins ou si vraiment il y avait des pratiques de masturbation des femmes dans les cabinets médicaux.
D'automédication, de se dire... Ouais. C'est ça. Pour se soigner elles-mêmes, ouais. Sans l'aide de quelqu'un d'extérieur.
En tout cas, ce qu'on peut dire de ce terme, de cette maladie un peu qui a été inventée, c'est qu'elle a quand même une dimension politique assez intéressante, puisqu'elle servait à discréditer toujours certaines colères, quoi. Et c'est ça, par exemple, que veut montrer Sabine Arnaud, qui a travaillé sur l'hystérie, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'invention de l'hystérie ». Et on peut l'écouter, elle parle de ça.
Le mot hystérie vient du mot de la racine grecque du mot utérus, mais très curieusement, au XVIIIe siècle, il est utilisé des manières les plus diverses. Tout d'abord, il est utilisé pour parler d'une maladie qui pourrait toucher hommes et femmes, mais en plus, les médecins en parlent comme d'une pathologie qu'ils ne peuvent pas définir et qu'on ne peut pas véritablement démarquer des autres maladies, parce que l'hystérie fondamentalement simule d'autres maladies. C'est ce qui m'a entre autres amené à écrire ce livre, parce qu'en fait on se rend compte très très vite que ce qui compte, c'est plus tellement la définition de la maladie, mais c'est le rôle qu'elle va jouer pour comprendre la femme, le rôle qu'elle va jouer pour comprendre la civilisation du XVIIIe siècle et la modernité et les excès de la modernité, le rôle qu'elle va jouer pour avoir une idée de la royauté et peut-être critiquer la monarchie juste avant la révolution, le rôle qu'elle va avoir pour critiquer les révolutionnaires au moment de la révolution comme des hystériques, le rôle qu'elle va avoir pour mettre en question le rôle de la femme et sa responsabilité en tant que citoyenne après la Révolution française. Donc c'est une catégorie qui, parce qu'elle n'a pas de définition, va jouer un rôle majeur, parce qu'elle peut servir à ce dont on a envie qu'elle serve. Et elle va servir toujours à critiquer, mettre en évidence un groupe et l'isoler comme un groupe problématique. Donc, cette absence de définition en fait finalement une catégorie très très riche et une catégorie qui peut être utilisée aussi par, non seulement par des médecins, mais par des pamphlétistes, par des écrivains, par des hommes de lettres, tout au long du 18e et du 19e siècle. Ce qui m'a amené à travailler sur l'hystérie, c'était de me demander comment, à un moment, on identifie quelque chose comme une maladie. Comment des douleurs, des sensations, des manifestations corporelles vont être conçues comme une maladie, reconnue comme telle par tout un ensemble de docteurs et soignée en vue donc d'une cure de ce qui est entre-temps devenu un patient. L'hystérie, c'est une maladie qu'on a toujours associée au 19e siècle. Et c'est en fait une maladie qui apparaît au XVIIIe siècle, une pathologie qui est d'abord associée à l'aristocratie comme une maladie de la sensibilité provoquée par peut-être l'oisiveté ou une éducation trop raffinée et qui, après la Révolution française, devient une maladie des femmes de toutes les classes sociales et, à travers là, la question de la menace qu'elle représente pour les citoyens à naître, les citoyens qui doivent défendre la nation française.
En tout cas, dans ce qu'elle mentionnait, ça me faisait aussi écho à comment aujourd'hui j'ai l'impression que parfois, quand une meuf pète des plombs, de la voir comme « ah oui, elle fait sa crise d'hystérie » ou « elle est hystérique » en général, c'est aussi effectivement une bonne technique de mise à distance, de se dire que y a pas de raison d'écouter ce qu'elle est en train, la colère qu'elle est en train d'exprimer, c'est juste... voilà, une expression qui lui est personnelle d'un pétage de plomb, mais qui n'a rien à voir avec soit un problème de société, soit un problème, quoi. Et du coup, qui ne mérite pas vraiment d'être pris en compte, quoi. Et que ça peut être... effectivement, c'est une bonne manière de catégoriser quelque chose tout en le mettant à distance de soi. Et là-dessus, ça fait assez écho, je trouve. Encore aujourd'hui, quoi, ce terme-là.
Et moi, j'ai l'impression qu'il y aurait presque deux dimensions différentes, deux usages politiques différents de l'hystérie, ou qu'on pourrait en tirer en tout cas deux directions. La première, c'est celle dont vient de parler Sabine Arnaud et celle dont on parle depuis tout à l'heure, quoi, c'est-à-dire la décrédibilisation de la colère, quoi, mm-hmm. La pathologisation de la colère, etc. Et je dirais que la deuxième, c'est que... plutôt dans tout ce que j'ai lu, les médecins, les psychologues ont l'air de s'accorder sur le fait que la crise d'hystérie, elle viendrait du fait qu'on a refoulé son désir, quoi. Qu'il y a un désir qui a été refoulé, etc., quoi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on masturbait les femmes au Moyen-Âge contre l'hystérie. Mais en tout cas, qu'elle témoigne d'un désir qui n'arrive pas à s'exprimer et qui, puisqu'il ne trouve pas de place, s'exprime de cette manière spectaculaire et explosive, quoi. Ça recoupe aussi un petit peu ce qu'on disait avant sur les pétages de câbles. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on pourrait tirer comme ces deux directions-là, qui sont de dire ce qu'il y a à comprendre de ces moments-là. C'est d'abord qu'est-ce qui n'a pas pu être exprimé, qu'est-ce mm-hmm. qui ne trouve pas sa place dans notre monde. Et ensuite, comment on délégitime le moment où il explose et puis qu'il n'est évidemment plus compris par personne, vu qu'il a atteint un point de colère un peu incroyable, quoi.
Ouais, ouais.
Les enfants. Eh ben tiens, parlons-en des enfants. Qui m'a supplié d'en avoir? Parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau? Mais tu t'en occupes jamais. Enfin, si. Si, je suis vache. Le dimanche soir, parfois, ça te prend, là. Tu joues un quart d'heure avec eux. Tu les énerves bien en faisant le fou, là. Juste avant qu'ils aillent se coucher. Et après, tu me les laisses sur les bras, surexcités, trempés de sueur, avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis, les cauchemars. Et toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon, quand même, faut pas déconner. Les chiards, ça va 5 minutes. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire, une fois de temps en temps. Eh ben non. Elle peut pas, Babou. Ben non, elle a pas le temps, Babounette. Et puis à quoi ça me servirait? Tu m'as jamais emmené à un seul de tes colloques, de toute façon. Parce qu'en vérité, Pierre, tu as un peu honte de moi aussi. Avec mon petit poste, mon petit collège, ma petite banlieue, ça ne te fait pas briller, hein? Cette épouse molle fagotée, qui a quand même un gros cul de 25 kilos, en plus, depuis la naissance du petit! Alors qui va me demander pardon à moi? Qui va me demander pardon? Pas toi, Pierre. Visiblement. Et toi, Vincent? Tu vas me les dire, enfin, les mots que j'attends? Tu vas reconnaître qu'on t'a tout passé depuis que tu es né. Toi, le fils à sa maman, le petit clown à son papa, qui avait le droit d'être nul à l'école, qui avait le droit de sortir de table sans demander la permission, qui avait le droit de répondre, de découcher, qui avait tous les droits. Parce qu'il est tellement marrant, Vincent. Et puis c'est fou ce qui plaît aux filles. Mais c'est que ça doit être fatigant d'être un petit playboy. Oh, le chouchou. Faudrait pas qu'il s'épuise en débarrassant la table. Mais ta sœur va le faire. Mais ne t'inquiète pas, mon gros bébé. Mais ça la dérange pas. Elle aime ça, même, jouer la boniche. Ta godiche de sœur. Alors, Vincent, ça fait tilt? Pas de pardon en perspective. Alors moi, je vais prendre mon aigreur, ma tristesse et ma rancune, et toutes les quatre, on va aller se coucher. En vous laissant la vaisselle, pour une fois. Pierre, tu es sur le canapé, tu y restes. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Moi, je vais prendre une boîte de Temesta et dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire foutre, et bonne nuit.
Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne.
Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà dit 100 000 fois sur tous les tons.
Marie douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse
Marie colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux.
Marie douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles, bien chanter des balades, mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prends garde.
Marie colère adore les éclats de voix, alors choisis entre les autres filles et moi.
Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne.
Marie colère est maintenant là devant toi. Marie douceur n'est plus qu'un souvenir déjà.
Voilà, Marie Colère de Marie Laforêt.
Qui faisait une reprise des Stooges, je crois. Non, je ne sais plus. Non, en fait, je ne crois pas même.
Une reprise d'un morceau voilà, très connu. Voilà, comme
la grande classique.
Voilà. Voilà, on n'est pas à l'émission musicale de Grand Plus, mais tous les autres sont bien plus forts que nous. Voilà, Marie Colère, Marie Douceur.
Ouais. Ouais, je trouvais que ça faisait une bonne forme de transition un peu sur toute cette histoire de quand on réfléchissait un peu à l'hystérie ou à ce qu'on peut qualifier d'hystérie, là, comment ça pouvait être une bonne manière de mettre à distance. On disait, ah, mais ça peut être quoi les formes d'expression de colère qu'on a l'impression qu'aura un peu une espèce de poids sur la situation, qui permettent de poser des mots et de changer des choses, quoi. Et en y réfléchissant, mais aussi parce que nous, on a envie de valoriser les formes d'agir sur le monde pour le changer. Et ben, on avait l'impression que, en fait, les femmes révolutionnaires qui à un moment décidaient d'agir, et ben il y avait souvent des récits de femmes qui à un moment pétaient les plombs, prenaient conscience de quelque chose, et que ça s'accompagnait d'une forme de pétage de plomb, voire parfois passer aux armes, et que ça pouvait être pointé du doigt comme d'abord un pétage de plomb mis à distance, mais qu'en fait à un moment il y avait une telle prise sur le monde parce que en fait elles vont agir, elles vont sans pour nécessairement glorifier et valoriser à tout va des kidnappings ou le fait de tuer des gens, mais en tout cas là-dedans il y avait quelque chose où tu peux, face à ça tu peux plus rien dire, ça existe, c'est là, c'est présent, donc tu peux pas juste dire ah oui elle fait juste sa petite crise d'hystérie, ça va lui passer, parce qu'en fait de fait il y a un truc qui est en train de se passer, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on s'est beaucoup posé de questions sur la manière dont les crises de colère peuvent être prises au sérieux, étant donné ce qu'on vient de dire sur l'hystérie et sur la ridiculisation de la colère féminine, quoi. Et effectivement, on avait plutôt le sentiment qu'à un moment, la prise au sérieux, elle venait d'une menace, quoi. Ouais. De quelque chose, du fait que les femmes se mettent à incarner quelque chose de menaçant, et y compris de violent. Et du coup, on pensait à plein de films encore, plein de livres aussi, où la colère des femmes se transforme, et l'espèce de trame de fond pour une série d'assassinats, de vengeance, etc. Il y a ça dans Kill Bill.
Dans Baise-moi de Despentes.
De Virginie Despentes, ouais. Mm. Une explosion féminine qui effectivement donne lieu à la vengeance, à des meurtres.
Mm-hmm.
Alors on trouvait pas ça incroyable, on voulait pas que ça mène à dire plutôt que d'avoir une petite crise d'hystérie, vous feriez mieux d'assassiner toute votre famille à Noël.
Mais en tout cas, disons que on se disait qu'il y avait quelque chose à explorer là, de sans forcément aller dans une forme de violence. Comment faire que notre colère ait une prise sur le monde et que sûrement qu'il y a plein de biais. Alors peut-être ça peut être poser des mots clairs sur notre ressenti et que c'est une forme de politisation parfois, aussi d'élargir la focale, de partir de notre situation individuelle de colère pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres meufs qui sont dans cette situation-là, qui ressentent la même chose. Est-ce que c'est pas le signe qu'il y a un vrai problème politique et qui n'est pas juste mon problème individuel, que j'ai mes règles, je pète les plombs, quoi. Et en tout cas, que peut-être ça ouvrait comme une piste un peu, là, cette histoire de violence révolutionnaire ou de... Ouais.
Ouais, c'est un peu le renversement politique un peu classique que fait le féminisme et qui disait aussi dans les années 70, ce n'est pas la société qui a un problème avec les femmes, parce que jusque là on parlait de la question des femmes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces femmes, etc. Et les mouvements féministes disaient c'est pas la société qui a un problème avec les femmes, c'est les femmes qui ont un problème avec la société, quoi. Du coup c'est toujours ce renversement pas stratégique mais méthodique presque que nous on pourrait proposer de faire, quoi, de dire quand quelque chose est au bord de l'explosion en nous, plutôt que de se dire j'ai un problème, je suis folle, j'explose, je sais pas quoi, toujours se demander plutôt comment c'est nous qui avons un problème avec la situation, quoi. Et comment on met des mots là-dessus et comment aussi on fait que cette colère elle soit un vecteur de rencontre, pourquoi pas d'organisation politique, etc., quoi.
Il y a ce tract qui a été publié en Italie dans les années 70. Il y avait un gros mouvement féministe qui d'ailleurs nous inspire pas mal, nous, théoriquement notamment, et qui dit faire de la violence même une pratique quotidienne de nos luttes, ce n'est rien d'autre que leur rendre la monnaie de leur pièce. Il y aura une réponse violente au travail domestique, il y aura une réponse violente à des rôles que nous n'avons pas choisis et qu'on nous impose, etc. Je trouve que, je trouvais que ça faisait partie de ces pistes, un peu de, agir sur le monde, quoi, et faire de notre colère une arme pour, avoir des prises sur les choses, s'organiser ensemble, etc.
Mais il y a des réalités économiques derrière la pollution. Il y a des éleveurs, il y a la concurrence.
Et alors ? Faudrait tous qu'on s'intoxique pour que les éleveurs puissent continuer à faire du fric sur le dos de la santé des gens, et surtout qu'ils continuent à voter pour toi. Mais qu'ils crèvent, les éleveurs, et leur viande pourrie, qui se la garde ? Et si demain les gens comprennent que la viande c'est mauvais, qu'ils arrêtent d'en acheter, les éleveurs ils arrêteront d'élever, ils cultiveront des céréales à la place. Et si toi t'es pas réélu, peut-être que tu commenceras à t'intéresser à ce qui est bon pour les gens, et pas seulement à ce qui est bon pour toi.
Je suis désolée pour tout ça, excusez-nous.
Bien, Olivier, je crois que nous avons tous beaucoup apprécié ta petite sortie écologiste. Mais maintenant, nous aimerions bien passer à table, n'est-ce pas?
Ah non, parce que je viens de jeter les spaghettis à la poubelle.
Sarah, tu montes dans ta chambre immédiatement.
Je t'emmerde, vieux con.
Sarah, je t'ordonne de faire des excuses à ton père.
Des excuses, mon cul.
Ça suffit maintenant.
Encore la crise de Colin Serrault. Voilà cette scène magnifique où les enfants ont jeté tout le dîner parce que il est dégueulasse et qu'ils en ont marre de bouffer de la merde et de bouffer des trucs malsains. Voilà, on vous le conseille.
C'est, et qui pose un marrant discours politique sur le sens de leurs actes.
Ouais, exactement. Et typiquement cette scène, elle est marrante parce que pour ce qu'on veut dire, parce qu'effectivement les parents essayent au début de faire passer l'espèce de crise de leurs enfants pour un truc un peu folklorique, ah oui voilà, t'es jeune, t'es idéaliste, je sais pas quoi, et parce qu'elle monte en puissance aussi, à un moment ils arrivent plus à la gérer, quoi. C'est-à-dire dire, ah t'es un petit jeune idéaliste, c'est sympa, maintenant tu vas aller rentrer dans ta chambre, et ben les jeunes ils disent mais non, on va pas rentrer dans notre chambre, et répondent à leur père, ils disent mais va te faire foutre, c'est toi le con de l'histoire, ils l'attaquent, etc. Et ça fait effectivement que à un moment t'es obligé de prendre au sérieux ce qui est en train de se dire, quoi. Mmh. C'est plus une passade, quoi. Il y a un rapport de force politique qui commence à se créer, quoi. Parce qu'on sent que la parenthèse va pas juste se refermer et on va pouvoir aller manger tranquillement, quoi. Mais qu'il y a quelque chose qui est posé jusqu'au bout. Et c'est un peu vers ce genre de choses qu'on voulait un peu ouvrir notre émission, quoi. Moi, je voulais dire quelques mots sur la décribilisation de la colère féminine. Moi, je me demandais aussi si à un certain point, le fait que la colère féminine soit pas très prise au sérieux en général, ce soit pas lié à la vulnérabilité physique des femmes, quoi. Parce que comme on dit depuis tout à l'heure que la prise au sérieux va avec un certain sentiment de menace, mm-hmm. sentir qu'on peut tenir un rapport de force, qu'il peut y avoir une menace. Je me demandais si il y avait pas quelque chose dans le fait qu'on sait que les femmes utilisent pas la violence, on les imagine comme ça, quoi, comme des personnes pas capables de, parce qu'elles sont énervées tout d'un coup, foutre un coup à quelqu'un, etc. Mm-hmm. Du coup, que ça crée ce sentiment aussi qu'on peut tourner en ridicule leur colère parce qu'elle va jamais aboutir à une violence, quoi.
Ouais, effectivement, je pense. Et d'un coup, je pense à la forme de la crise d'hystérie. On se représente une femme qui va crier très aiguë, par exemple, et qui renvoie un peu à tous ces attributs de la féminité comme quelque chose de fragile, un peu, et de qui est pas très menaçant, effectivement. Et que j'ai l'impression que par exemple, ayant fait des cours d'autodéfense pour femmes, on nous apprend beaucoup en réaction, avoir un cri qui soit hyper rauque, hyper grave et hyper violent, et qui soit aussi d'autant plus surprenant parce que il va pas là où on l'attend et qui d'un coup qu'incarne effectivement une menace, quoi. Et ouais, je trouve ça fait un peu écho ce que tu dis, quoi. Comment il faudrait, enfin je sais pas s'il faudrait, mais en tout cas que c'est lié aussi au fait qu'on ne représenterait pas une menace à première vue, quoi. En tant que femme.
C'est compliqué parce qu'on a parlé en début d'émission beaucoup de situations où on pète un câble contre nos enfants, nos pères, nos maris, etc. Du coup, c'est difficile d'imaginer introduire de la violence dans ce genre de rapport. Enfin, ouais. Mais par contre, je pense quand même que le ridicule de ces situations-là vient de l'imaginaire qui est attribué à ça, quoi. Si le père fait autorité aussi sur nous et que sa colère fait autorité, c'est que notre père soit violent ou pas, j'ai l'impression que est lié au monde du père, enfin au symbolique du père, le fait qu'il pourrait l'être, quoi, en tout cas, quoi.
Ouais.
Et que la mère, il y a toujours ce truc de « et quoi ?» espèce de scène hyper classique de mais si je le fais quand même, et quoi, qu'est-ce que tu vas faire, quoi. Et que quand même, on croit jamais vraiment qu'à la fin, elle va nous frapper si vraiment, vraiment, on va trop loin, quoi. Mm-hmm. Du coup, je pense que c'est lié quand même un peu à ça, quoi. Et du coup, nous, on voulait simplement dire deux mots, on n'a plus tellement le temps, mais sur l'autodéfense. Mais bon, tu l'as déjà fait un tout petit peu, t'as parlé en quelques mots de l'autodéfense. Mais l'autodéfense, c'est une pratique féministe qui est quand même assez diffusée et qui vise justement à prendre conscience de sa propre force et à prendre confiance en son corps par la même, quoi. Et du coup, c'est une série de gestes assez simples qui s'apprennent et qui peuvent se répéter aussi et qui ont pour but de, je pense, qui ont été inventés pour se sortir de situations vraiment très dangereuses. Mais le fait d'apprendre toute cette série de gestes, ça a quand même comme première conséquence, moi je trouve, de vraiment prendre conscience de la force qu'on a, quoi, et que rien nous a jamais permis de découvrir, parce que on n'est peut-être pas très accoutumés, on n'est pas très nombreuses. Enfin, moi je le suis pas vraiment, mais il y a pas beaucoup de femmes qui sont accoutumées de la boxe ou de tous ces sports de défense ou des sports sportifs un peu violents, quoi. Et du coup, cette pratique qui est pratiquée en non-mixité seulement avec des femmes.
Ou dans d'autres mixités choisies, Meuf Gwen France, mais effectivement, des personnes qui ont fait les frais de formes d'oppression, qui sont aussi des oppressions comme sociétales et pas juste un problème individuel, etc. Et pour se retrouver entre personnes qui sont senties fragiles à des moments ou et pas ouais avoir un certain sentiment de confort dans ces groupes.
Et voilà, et du coup on se disait aussi que c'était une des portes de sortie à tout ce qu'on avait dit avant, quoi. C'est-à-dire pas forcément le fait de devenir violente, mais en tout cas le fait de sentir la puissance que notre corps il a et faire que notre colère elle puise aussi en sérénité presque, je dirais, là-dedans, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'une colère aussi plus sereine, c'est une colère plus efficace dans un sens, quoi. Qui sait où elle va, qu'est-ce qu'elle veut, qui est capable de poser aussi un rapport de force quand il y en a besoin, quoi. Et qui, du coup, est prise beaucoup plus au sérieux, quoi.
Luna, arrête, qu'est-ce que tu fais?
Bien sûr, je suis pas comme Merlin. Je suis pas comme Madonna. Ni comme Nina Hagen. Non, je suis comme une chienne. Je suis comme une chienne!
Calme-toi, Luna, arrête tout ça, calme-toi!
Ja, ich bin scandaleuse! Dans votre société capitaliste! Dans votre démocratie! Dans votre bonne conscience! De. Na! Jean Vico!
Arrête ça, arrête!
Jean Renoir! Jean Le Godard! John Ford! John Cassavetes! À la poubelle!
Mais qu'est-ce qu'elle fait?
La droite! La gauche, tous dans la même poubelle. Bite, chat, couille. Il commence la guerre. Le capitaine des guerres baisse les fidèles. Belle, bite, chat, couille. Il commence la guerre. Le capitaine... Ah!
C'est fermé la cafétéria. Elle est où ta copine, Luna?
C'est fait gicler du film.
C'est fait gicler du film.
Elle a agressé la caméra.
C'est la caméra.
Elle a parlé mal de Jean Vigo, Jean Renoir, Jean-Luc Godard, Cassavetes.
Voilà, Je suis née d'une cigogne, un film incroyable qu'on vous conseille de Tony Gatliff, qui est incroyable. Bon, j'en dis pas plus. Bon, voilà, on voulait finir notre série. Notre série de figures et de paroles autour de la colère, l'hystérie, la violence, par les propos de Delphine Seyrig. D'ailleurs, on est super admirative de Delphine Seyrig et de sa manière de s'exprimer. On s'est dit qu'on pourrait faire une série où à chaque émission de Si je retrouve mon corps, on vous passerait une punchline de Delphine Seyrig. Même si ça donne un petit côté vieillot à notre émission.
Un peu 60s.
Ouais, exactement. Mais voilà, on lui donne la conclusion. Ce ne sera pas les mots de la fin, mais la conclusion de toute notre histoire.
J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise, parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles. Étant une femme, je voudrais qu'on sache que j'en suis consciente et que je sais que beaucoup de femmes partagent ça avec moi.
De là vient sûrement cette agressivité qu'a souvent le mouvement de libération des femmes et qui n'est pas sympathique.
Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique.
Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique. Voilà, on va clore notre argumentation par ces phrases. Il nous reste une dernière chose à vous faire écouter. C'est l'horoscope qui revient tous les mois. Et qui a été fait par notre ami
qui ne pouvait pas être là ce matin, mais qui mais qui nous a quand même préparé un petit horoscope.
Aurore. 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 Horoscope. Horoscope du mois.
Novembre. Pour les natifs du Bélier, le mois de novembre vous fera rougir. Le froid est arrivé. Les Lions. Un petit grog vous fera du bien après tous ces maux de gorge. Petit conseil astro, parlez moins, écoutez plus. Les natifs du Poisson verront un signe durant ce mois de novembre. Restez vigilants et passez du temps au bord du lac. Les Gémeaux, une bonne frite vous fera du bien lundi prochain. Pour le signe de la Vierge, le mois de novembre rime avec membre. Faites attention donc à vos jambes. Capricorne, la position de la Lune durant ce mois provoquera de violentes envies de vengeance. Mettez-les à exécution, mais attention, ne vous trompez pas de personne. Pour les natifs du Verseau, une opportunité de fou sonnera à votre porte. Sautez dessus! Pour les Balances et les Scorpions, plus qu'un muscle, le cœur est LE muscle. Allez courir! Sagittaire, prenez plus de bains aux huiles essentielles et mâchez 100 fois avant d'avaler. Pour les natifs du Taureau et du Cancer, ce mois vous embellira grâce à la sortie de vos écharpes oubliées.
Et voilà, l'horoscope du mois de novembre.
Et si je retrouve mon corps, c'est fini pour aujourd'hui.
Et oui, c'est une émission mensuelle, c'est pour ça qu'on fait un horoscope par mois.
Voilà.
Et donc voilà, vous pouvez retrouver l'horoscope du mois de décembre et tout ce qui ira avec.
Ce sera le samedi 25 à 9h.
Voilà, 9h. C'est pour ça qu'en début d'émission, on est moins réveillé qu'en fin d'émission.
Mais cette émission permet aussi de nous réveiller, et c'est ça qui est bien.
Et c'est plutôt une bonne chose, ouais, tout à fait. Alors, on ne sait pas encore de quoi on va parler pendant un mois, mais vous avez compris le fond de notre émission. On va parler des femmes, ou alors aussi
des personnes qui ne se reconnaissent pas en tant qu'hommes, en tout cas.
Ouais, voilà, qui ne veulent pas forcément se définir comme femmes, mais qui en tout cas ne veulent pas être des hommes, disons-le comme ça. Et on va parler de ce qui se passe si je retrouve mon corps. Et du coup, en tout cas, de toutes ces émotions qui nous habitent et qui ne trouvent pas encore d'expression politique et qu'on veut voir, on veut travailler, on veut voir atteindre un statut politique ou en tout cas une forme de prise politique sur toutes ces émotions-là. Mm-hmm. Et voilà, donc on verra bien laquelle on choisira.
Voilà, c'est le suspense.
La semaine prochaine. En tout cas, on vous quitte. Vous pouvez retrouver si je retrouve mon corps sur Internet. Sur un audioblog, voilà, si vous le cherchez un peu, vous trouverez, c'est sûr.
Salut !